Carnet de campagne, bonjour. Dernière approche du Maine-et-Loire. La semaine prochaine, nous serons dans le Loir-et-Cher. Direction tout de suite Fontaine-Guérin, 100 habitants. Et une précédente présentation en 2016 de l'association Habitage. À cette période, l'association réhabilitait l'espace d'un ancien jeu de boules de fort, vous savez, le jeu traditionnel de l'Anjou, afin d'y installer un groupement de logements adaptés pour seniors. La démarche plus qu'utile pour conserver une population vieillissante au cœur du bourg a porté ses fruits. Le lieu est en effet ouvert depuis juillet dernier, avec 4 appartements loués avec leur espace partagé. Vanessa, jeune promotrice de l'opération avec Michael, ajoute, je cite, que chacun vit chez soi, mais entouré des uns et des autres dans un esprit de liberté, de simplicité et de convivialité. Fermez la parenthèse. Une équipe de bénévoles s'est constituée pour assurer le lien social entre les résidents et l'association organise désormais des ateliers sur le thème avancer en âge et penser son habitat de demain. Elle déploie d'ailleurs son modèle dans d'autres communes bien intéressées par cette démarche. Serge Guérin, sociologue du vieillissement, bien connu à France Inter, a choisi de parrainer cette association. Son site c'est habitage-asso.fr et puis aussi une page Facebook à l'adresse suivante habitage49. Invité de ce vendredi, Timothée Toigo pour son association Wine the Fuck, drôle de nom, de soutien aux viticulteurs victimes des gelées qui ont décimé leur production ces dernières années. À lire d'ailleurs le portrait de cet organisme dans les pages numériques de La Vie. Et puis Émile Beucher pour la société coopérative d'intérêt collectif Atmosphère, j'ai bien dit Atmosphère avec un H. Atmosphère Coopération qui invente elle aussi un habitat alternatif pour personnes âgées sous le principe de logement réversible.
France Inter, Carnet de campagne, Philippe Bertrand.
Timothée Toigo, bonjour.
Bonjour.
Timothée, président de l'association, attention, la citation « Wine the fuck ». Wine comme le vin, the fuck. Alors vous l'avez écrit FCK pour que ça passe dans les courroies de transmission, en particulier sur Internet, parce que parfois ça bloque. Le titre est sec, le titre est brutal par rapport à une situation qui elle est givrée, gelante et surtout catastrophique pour les vignerons bio de votre région.
Oui, absolument. Ouais. Ça a été assez. Ça qui est sévère en une fois, notamment par rapport au gelé, donc je trouvais que le nom était bien adapté.
Ouais. Les dernières en date, c'était en avril l'année dernière, en particulier dans le village où vous avez décidé de lancer la première opération de solidarité à Savenière, la nuit du 26 au 27 avril. Que s'est-il passé exactement? Quel a été le degré d'impact de cette gelée sur la production?
Eh ben, pour une grande partie des vignerons locaux, et notamment à Savenière, on a eu une succession de nuits de gelées, ce qu'on appelle des gelées noires, où le matin, vous vous levez, vous voyez la vigne qui est encore verte, une fois le soleil levé, tout le vignoble est devenu noir, donc grillé à 90% sur la totalité de l'appellation Savenière, par exemple, mais aussi dans les alentours.
Oui.
Et donc voilà, c'était assez désastreux, surtout que c'était une deuxième année, parce qu'en 2016, il y avait déjà eu un épisode. Mmh. Et donc, pas mal de vignerons, et notamment les jeunes, ont souffert, si on peut dire.
Oui. Alors, beaucoup de jeunes vignerons, effectivement, parce que vous avez pris le parti de vignerons qui travaillent en version bio, biodynamique, ou qui produisent des vins naturels. En général, on est sur des petites superficies assez fragiles, qui ont été bien attaquées. Et donc vous avez décidé, avec Alex Restaurateur et Anne-Hélène Caviste, de créer un événement de solidarité.
En fait, étant assez proche de tous ces vignerons locaux, on a très vite vu ce qui se passait. Et la question qui s'est posée, c'était qu'est-ce qu'on pouvait faire pour leur donner un coup de pouce. Et donc l'idée est venue de monter un événement plutôt festif et pour les soutenir. Mmh. Et moralement, pour aussi dire qu'on est là et aussi pour passer un bon moment ensemble.
Et combien de producteurs ont adhéré directement à votre projet, à votre association?
Et ben, on a facile une quarantaine. Disons qu'on est une région assez dynamique en termes de vin naturel, biologique ou biodynamique. Et c'est un petit monde, donc... Mmh. ça allait assez vite.
Alors, l'opération de soutien que vous avez lancée, que vous avez donc baptisée, avec un beau jeu de mots aussi, les givrés d'Angers, parce qu'il y avait bien danger, et il y a toujours danger sur cette économie locale, passe à un autre stade. Il y a une deuxième version, mais qui va devenir carrément un festival.
Oui, tout à fait. Disons qu'on a fait une première édition en octobre à Savenir, qui a été un vrai succès. Et c'était, les bénéfices permettaient de générer un autre événement qui pouvait permettre de ramener un peu plus de bénéfices à reverser aux vignerons les plus touchés.
Ouais. Vous avez pris l'option donc de défendre une certaine viticulture, une viticulture plutôt alternative. Comment réagissent les autres viticulteurs ? Est-ce que, quelle que soit la méthode, tout le monde a été touché dans cette histoire ?
Oui. Après, c'est une sélection, parce que nous, c'est notre travail au quotidien, où on travaille avec ces gens-là qui sont dans une agriculture respectueuse de l'environnement et des consommateurs. Après, on a quand même le soutien des autres vignerons plus conventionnels. Mais après, c'est aussi une autre vision des choses, parce que c'est bien souvent ces domaines conventionnels qui sont sur des structures plus grosses et qui ont les reins plus solides. Et du coup, c'est pas du tout les mêmes gestions, quoi.
Alors, date du second festival, Timothée ?
Alors, c'est le 28 et 29 avril. Bien sûr, on aura des vignerons présents qui feront déguster leur vin, qui en vendront également sur place. On aura aussi des concerts sous chapiteau, de l'art de rue, des spectacles, des projections, une fanfare qui se remonte exprès pour l'occasion, une certaine fanfare qui s'appelle Jobitume.
Jobitume ?
Oui, tout à fait.
Et ça se passe à Savenières, les dates 28-29 avril prochain, pendant ces deux jours avec ces festivités et surtout ce soutien aux vignerons qui ont été touchés par ces vagues de gel. La page Facebook, c'est Festival Givré d'Angers, le tout au pluriel pour Givré et d'Angers. Enfin, ça s'écrit comme ça parce qu'on fait référence évidemment à la ville d'Angers. Merci Timothée.
Merci à vous.
Carnet de campagne. Philippe Bertrand. Sur France Inter.
Ils ont choisi le nom de matière grise pour signifier leur démarche de réemploi de matériaux de construction. Émilie, dans sa correspondance, précise bien réemploi et non recyclage, une nuance importante puisque le réemploi ne nécessite aucune énergie de transformation et conserve l'objet dans son intégrité. Matière grise pour ces matériaux du bâtiment qui finissent leur vie dans l'enfouissement souvent ou l'incinération. L'association veut changer notre regard sur les déchets qui deviennent ressources dans leur réemploi. Elle offre ainsi ses conseils aux collectivités et aux maîtres d'ouvrage de plus en plus soucieux de limiter l'impact écologique des chantiers de construction. Matière grise intervient aussi auprès des particuliers par des conseils dans leurs projets de construction, par des chantiers de dépose des matériaux et elle anime des conférences sur ce thème. Elle fait partie d'une première génération d'associations animées par le même souci du réemploi. Soit pour l'instant une quinzaine de structures en exercice en France. Et pour imager le volume des déchets engendrés par la filière bâtiment chaque année en France, on parle de l'équivalent de 50 pyramides de Khéops. Je signale que le volume de la célèbre pyramide est estimé à 2,5 millions de mètres cubes. La page Facebook de l'association a fait le recensement des structures qui s'investissent dans le réemploi de ces matériaux en France avec leur localisation régionale. Ça peut être vraiment utile. D'ailleurs, le site, la page, c'est Facebook. La page Facebook, vous écrivez M grise, comme matière grise, M grise, sur la page Facebook. Émile Beucher, bonjour.
Bonjour.
Cher Émile, président, merci pour votre courrier bien sympa et vraiment intéressant, parce que ça va répondre à beaucoup de questions. Et une, aujourd'hui, qui concerne les situations des EHPAD, les établissements d'hébergement pour les personnes âgés, on voit le souci actuel. Et avec votre SIC, donc la Société Coopérative d'Intérêt Collectif, Atmosphère Coopération, qui est d'ailleurs régionale, hein, vous inventez peut-être la solution d'avenir, c'est le village passerelle.
Oui, il n'y a pas que nous, hein. Il y a une association qui est à Fontaine-Guérin dans le Maine-et-Loire aussi, qui est Habitage, qu'on a rencontré il n'y a pas très longtemps, hein, et on va travailler ensemble parce que on est parti d'une situation d'aménagement du territoire au départ.
Oui.
On a plein de projets dans tous les domaines, mais le village passerelle, la situation des personnes vieillissantes est vraiment dramatique. Ils n'ont pas beaucoup de moyens, Ça coûte très cher d'aller dans un EHPAD. Et comment ils peuvent le durer le plus longtemps dans les conditions de sécurité, d'hygiène, de confort, le plus longtemps possible dans leur village, en autogestion, hein, on demande à ce que les gens s'autogèrent le plus longtemps possible, jusqu'à 85 ans s'ils peuvent y aller, 90 s'ils peuvent y aller, quoi.
Oui.
Et à partir de là, on va sortir pour des revenus de retraite qui sont en général par personne 800 à 900 euros en milieu rural, on va pouvoir sortir à 300, 350 euros maximum par mois de coûts de logement.
Mais comment faites-vous ?
Eh bien, on refait des petites unités de 35-40 mètres carrés qui sont réversibles, c'est-à-dire qu'on peut les enlever quand il n'y en a plus besoin dans une commune parce qu'il n'y a pas assez de personnes âgées. Ces logements-là peuvent aller dans d'autres communes et comme ça, on va essayer de coopérer pour dire ben, il n'y a pas besoin de construire énormément de logements. Des logements, il y en a. Et en même temps, les logements qui sont dans les cœurs de bourg, elles sont pas habitables telles que ça pour des jeunes. Donc, ce qu'on dit, mais mettez-le dans la coopérative, votre maison, on va relever des parts sociales pour réhabiliter votre maison et ça va repartir pour des jeunes. Mmh. Vous voyez ?
Oui. Je vois quand même un schéma type, hein, une résidence et 4 à 6 logements construits donc avec cette optique réversible, des logements adaptés quand même aux personnes à mobilité réduite. Alors, les bénéficiaires, ça peut être des personnes âgées autonomes ou à faible dépendance ou en situation de handicap.
Tout à fait. Il y a des services en milieu rural qui ont cette habitude d'accompagner les personnes. Mais aujourd'hui, en regroupant 3, 4 ou 5, on va optimiser la relation humaine et puis l'aide sociale. Hein, et plutôt que d'aller à chaque fois faire un kilomètre là entre chaque maison.
Bien sûr. Voilà. Alors, il y a parallèlement à la maison une pièce de vie commune, un jardin commun avec terrasse, et puis il y a aussi un logement pour une personne bienveillante, comme vous l'appelez, bénévole.
Oui, alors, donc la personne bienveillante, c'est une personne qui bénéficie du même tarif de logement. Alors, c'est pas une salariée, c'est une personne qui donne de son temps pour aller dire bonjour, pour aller dire, voilà, tout se passe bien. Mais c'est aussi une personne qui peut être appelée à un moment donné, si elle est là, elle est là. Et puis sinon, dans chaque village, c'est une coopérative locale qu'on met en place. Ouais. Donc, dans chaque village, il y a une association support. Hein. Donc, c'est remettre...
Attendez, Émile, le montage financier se fait avec qui ?
Alors, le montage financier... On crée une petite coopérative locale, une société coopérative civile immobilière. À partir de ce moment-là, si par exemple il y a 5 usagers qui vont venir dans cette coopérative, c'est eux qui vont la gouverner. Ensuite, il y a des partenaires locaux qui peuvent y mettre des parts sociales. Et puis après, on va lever des parts sociales pour financer.
Et des parts sociales auprès des habitants ?
Auprès des habitants, alors ce qu'on espère, c'est être labellisé financeur et pouvoir lever de l'épargne dans toute la France et dire aux enfants des parents qui sont dans cette situation, eh ben, de dire, mettez votre épargne salariale là-dedans. C'est un investissement que pour la terre et les habitats.
Écoutez, moi je suis ébahi. Ce qu'il faut faire, c'est l'encadrer, ce schéma, et puis le soumettre à d'autres collectivités pour que, si le modèle fonctionne bien, et il me semble vraiment très pertinent, entre le domicile où il y a une petite perte d'autonomie et on trouve quand même un habitat collectif sécurisant, entre donc le domicile d'origine et la maison de retraite, comme l'on dit communément, il y a cette solution qui permet de rester quand même au cœur du bourg et participer à la vie locale. Ça s'appelle Amosphère, comme un hameau mais avec un O, Amosphère, trait d'union, coopération.org pour l'adresse du site internet. Merci beaucoup, Émile.
Je vous en prie, c'est moi qui vous remercie et puis au revoir.
Au revoir. Je prends le temps de remercier l'équipe et puis de vous rappeler aussi que la semaine prochaine, donc comme j'ai dit, on sera dans le Loir-et-Cher avant de traverser le Var, le Gard, l'Hérault, la Charente et puis au mois d'avril, la Haute-Vienne, la Dordogne, l'Aude et l'Ariège. J'espère que vous avez le temps de noter. Merci à Anne Nureau qui réalisait les carnets cette semaine. Merci à Élise Amchin qui leur apportait du contenu. Merci aux techniciens et techniciennes de France Inter qui leur ont donné du son, comme aujourd'hui Loïc Frapsos. Nicolas Stoufflet, assisté de Yann Paillet. C'est la dernière dans le département du Maine-et-Loire du jeu des 1000 euros. L'étape est au Garenne-sur-Loire.